la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Vous allez entendre beaucoup de bassistes aujourd'hui. La basse est un instrument absolument indispensable aux orchestres de jazz puisque c'est lui qui assied la musique, en quelque sorte, le bassiste.
C'est le rythme absolu. Voilà.
C'est la partie sur laquelle tout le monde se pose. Et c'est très important. Un bassiste est là pour caler tout un orchestre. Et c'est très complémentaire avec le batteur qui, lui, accentue le contraste. D'où résulte la pulsation qu'on appelle swing. Bref, aujourd'hui, c'est les bassistes. Et la première question qui s'est posée pour les joueurs de contrebasse ou de basse a été « je défile ou pas ?»
Vous imaginez une contrebasse, c'est un instrument qui est plus haut qu'un homme, qui est fragile puisque c'est en bois. C'est un violon en très gros.
C'est un énorme violon.
Voilà. Donc, se promener avec cet instrument énorme qui craint la pluie, qui craint le soleil dans les rues, c'est pas vraiment évident.
On ne peut pas le porter tout en jouant par-dessus le marché. C'est pourquoi les contrebasses à cordes, qui existaient dès le début du jazz d'ailleurs, ont quand même, à cette époque-là, été très en retrait. Mais enfin, il faut quand même souligner qu'on a une photo de l'orchestre de Buddy Bolden, le tout premier orchestre de jazz connu, et là, il y a un contrebassiste à cordes. Il y avait aussi une deuxième problématique dans cette histoire de cordes et de pavillons, c'était la puissance du son. Car dans les orchestres, les premiers grands orchestres qui ont existé, le son de la contrebasse était naturellement réputé moins puissant que le son du tuba ou du sous-bassophone.
Absolument, ça se perdait un petit peu dans l'ensemble des cuivres. Hein.
Exactement, c'était pas très facile. Mais on va voir quand même que certains ont réussi à contourner le problème. En tout cas, nous allons maintenant évoquer les grands tubas des années 20, en fait.
Oui, finalement, on a plutôt choisi par commodité le tuba.
Exactement, au départ, c'est ça. Et les trois tubas dont on va parler étaient des tubas qui faisaient ou de la petite ou de la grande formation, car il y avait des tubas jusque dans les formations très réduites. Le premier très grand tuba dans le jazz s'appelle Cyrus
Sinclair. Quel joli nom. On dirait absolument le nom d'un héros de feuilleton romantique.
C'est très, très, oui, c'est tout à fait ça. Ce Cyrus Sinclair, qui était du Maryland, et pas du tout à Nouvelle-Orléans, a beaucoup joué avec Clarence Williams, en petite formation, mais également en plus grande formation, avec l'orchestre de Charlie Johnson, qui est un des tout premiers big bands de jazz. Et il joue un morceau.
The Boy in the Boat, ce qui veut dire garçon dans le bateau.
Quelle magnifique évocation!
Thank you. by the low down beat. The man must be crazy. Yes, sir.
Comme on peut voir, la présence d'un tuba ou dans un orchestre où il y a plusieurs trompettes, un trombone, là on entend Sidney de Paris la trompette Wawa qui est superbe, hein. Et Harrison au trombone bouché qui est tout autant superbe, c'est une belle page de jazz des années 20, ça, The Boy in the Boat.
Plus très simple, mais très très joli.
Exactement. Et quand on a un orchestre comme ça, assez cuivré, ben le tuba fait sonner. Là, ça s'entend bien et ça va encore mieux s'entendre un peu plus loin. Tout à l'heure, on en reparlera. Un deuxième tuba qu'on va entendre maintenant s'appelait Pete Briggs. Alors là, il montre qu'on peut jouer du tuba dans une petite formation et tout à fait à sa place.
D'ailleurs, au tout, tout départ, vous savez, quand les Noirs étaient juste à peine sortis de l'esclavage, ils avaient trouvé des tas de moyens d'avoir des instruments. Et des instruments pas chers, évidemment.
De fortune, de fortune.
Et qu'on a, d'ailleurs, on a fait une émission sur les instruments de fortune. Et le premier instrument, le premier tuba, c'était une énorme bouteille en verre.
Bah oui, chez nous, on appelle ça une dame Jeanne.
Qu'on appelle une dame Jeanne. Et il s'était aperçu qu'en soufflant dedans, ça donnait exactement... Peut-être pas exactement, mais que ça avait le même genre de sonorité qu'une sonorité de tuba.
Exactement, et ça servait donc à asseoir le petit orchestre de blues. Il y a des orchestres
voilà.
De blues qui fonctionnaient
comme
ça.
Voilà, et on l'appelait, cet instrument, on l'appelait un jug.
Un jug. Alors comme quelquefois on avait la bonne fortune de tomber sur des jugs qui étaient pleins, on commençait par vider le jug, ça s'appelait knocking a jug, et après on soufflait dedans.
Après quand il était vide, on avait tout l'espace.
Dans quel état on était, on ne sait pas très bien. Alors là, nous allons... avoir un tuba qui s'appelle donc Pete Briggs et qui a joué avec Louis Armstrong à la fameuse époque des Hot Five et Hot Seven. Là, c'est le Hot Seven puisqu'il y a un tuba ajouté au Hot Five hein, et puis le batteur Bobby Dodds. Et son son qui est parfait, qui est un son très net et très rond à la fois, son phrasé assez léger, ça se combine parfaitement bien avec ce que fait Armstrong à cette grande époque créative. Potato Head Blues désigne un type un peu idiot. Potato
oui,
head,
c'est, ça veut dire tête de pomme de
tête
terre.
De pomme
quoi.
De terre. Ah, va donc, patate. Hein,
c'est assez clair.
Et Louis Armstrong disait que c'était le préféré de tous ses disques.
Thank you.
Alors ça, évidemment, ce disque-là, avec Johnny Dodds à la clarinette, Johnny Saint-Cyr au banjo, et naturellement, les stop chorus de Louis Armstrong dans cette face sont totalement historiques.
Connus.
Ah oui, mais c'est plus que connu. C'est
surconnu.
C'est historique, c'est fondateur, je veux dire. Des disques comme ça, c'est des disques qui ont fondé le langage du jazz tel qu'on le pratique encore. Ça, c'est à pas perdre de vue. Louis Armstrong, c'est quand même un immense créateur, parce que ce que l'on entend là, c'est lui qui a inventé cette langue. Et là, on l'entend l'inventer, c'est assez fascinant. Pour en venir au tuba, il y a le plus balèze. Le plus balèze à tout point de vue.
Ah, c'est June Cole.
June Cole, l'athlète du tuba, le son le plus énorme qui soit, et la légèreté en plus dans la mise en place, la précision absolument totale. Alors ce gars-là, il était de l'Ohio, il a joué avec les McKitten Cotton Pickers, et il a été repéré par Fletcher Anderson qui commençait à agrandir son orchestre, qui commençait à avoir besoin d'un type qui sonne. Et là, vous allez entendre un tuba qui fait vraiment sonner un orchestre. Il s'appelle June Cole et le morceau s'appelle Henderson Stomp. Puis après, il y a une sorte de révolution, car deux contrebassistes
ont décidé de s'imposer.
Exactement. Et ils vont imposer la contrebasse en démontrant qu'une contrebasse peut avoir autant de puissance sonore qu'un tuba.
Et qu'elle a un peu plus de possibilités.
Et qu'elle a plus de possibilités en musicalité. Et ça a beaucoup plaire, en particulier dans les big bands et pour les arrangeurs de big bands. D'ailleurs, on a pu entendre là, en entendant June Cole, que June Cole était déjà inscrit dans les arrangements.
Et le problème des défilés ne se posait plus parce qu'un big band, il donne des concerts où il joue pour la danse, mais de toute façon, il est installé dans une salle et il n'y a pas de problème de défilé.
Exactement. Tous ces gens qui sont venus de la Louisiane pour s'installer dans les années 10 et 20 du côté de Chicago et puis après à New York, c'est des gens qui venaient peut-être des brass bands mais qui ne défilaient plus. En tout cas, ces deux-là, c'est des contrebassistes pur jus. Ils sont de la Nouvelle-Orléans tous les deux. Ils ne viennent pas du tuba, puisque l'un a commencé par le violon. et l'autre par le violoncelle. Donc, c'est vraiment des joueurs d'instruments à cordes.
À cordes, voilà.
Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais à Nouvelle-Orléans, ils ont développé une technique de puissance sonore comportant le slap, c'est-à-dire le claquement de la note de la corde contre le manche, de la basse, qui est d'une très grande efficacité. Et ils vont faire la révolution après Pops Foster et Wellman Broad, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Les orchestres vont abandonner le tuba. Peu à peu. Quand je dis peu à peu, c'est plutôt rapidement. On commence par Pops Foster. Lui, c'est l'orchestre Louis Russell qui l'a fait connaître. L'orchestre Louis Russell accompagnait Louis Armstrong. C'était le big band qui accompagnait Louis Armstrong dans les fins des années 20, début des années 30. Et ça s'appelle...
Jersey Lightning.
Du nom d'un breuvage redoutable apparenté au Calvados. Là, c'était donc l'orchestre de Louis Russell avec Pops Foster à la contrebasse, dont le premier instrument fut un violon. Donc en fait, en grandissant, il a fait grandir son violon
ça.
Jusqu'à la contrebasse. C'était un formidable contrebassiste qui a d'ailleurs eu toute une carrière après tout à fait intéressante et qui est même venu en France, si mes souvenirs sont bons. Il en a rapporté, je crois me rappeler, une contrebasse en bois de rose.
Alors, l'autre, et ça... c'est beau
Et c'est beau. L'autre s'appelle Wellman Broad. En fait, son vrai nom, c'est Bro, B-R-E-A-U-X. C'est devenu Broad par je ne sais quelle métamorphose. En tout cas, il est également à la Nouvelle-Orléans. C'est également un créole. Et lui, il a été repéré par Duke Ellington. On va d'ailleurs entendre pas mal de Duke Ellington aujourd'hui parce que Duke Ellington a énormément focalisé sur la contrebasse. Il a donc tenu à avoir une contrebasse, toute sa musicalité, tout le son de la corde. et tout ce qui peut être capable en matière de contrebassiste. Et comme on va voir, c'est une sacrée galerie de portraits. Alors Wellman Broad, là, il est à l'œuvre, nous sommes à la fin des années 20, et il marque de sa présence un morceau assez jubilatoire qui s'appelle justement...
Jubilee Stomp.
Voilà.
C'est joyeux ça quand même.
C'est très joyeux. Et nous enchaînerons de suite derrière avec un autre morceau de la même époque qui s'appelle The Blues with a Feeling, où là, Broad donne une atmosphère à ce morceau en jouant de l'archet. Car la contrebasse, on peut aussi jouer de l'archet, vous l'entendrez après.
Thank you.
y a une sacrée atmosphère dans ce morceau d'Ellington.
Ouais,
hein.
Ouais.
Alors dans le premier morceau, c'était la saxo alto, c'était Otto Hardwick, et dans le deuxième, Johnny Hodges. C'était deux types qui se sont succédés ou qui ont voisiné, qui sont très bons, mais Hodges est devenu un des piliers de l'orchestre Ellington et son premier alto attitré. Le trombone, c'était le fameux Tricky Sam. John Anton dit Sam le... qui est capable de faire parler un trombone. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça.
Et finalement, ça a vraiment donné envie aux hommes. Quand ils ont vu toutes les possibilités qu'il y avait avec une contrebasse, eux étaient un peu plus limités quand même. Techniquement, ils ne pouvaient pas jouer avec un archet, c'était un peu moins fin. Ça leur a donné envie. Seulement, ce n'était pas du tout la même technique. Il y en avait qui soufflaient. Et il fallait, à ce moment-là, jouer sur des cordes avec un archet ou sans archet.
Un pizzicato, avec un doigté.
Voilà, avec un doigté. C'était tout à reprendre.
Ah ben ça, c'est le redépart à zéro.
Eh bien, ils s'y sont jetés.
Exactement. Et avec un son, en plus. Et là, il faut dire que le jazz est un village. Hein. Le jazz est un village. Il est toujours un village, maintenant, d'ailleurs. Donc, les nouvelles vont vite. Et les choses qui frappent vont très vite quand un type arrive et qu'il est éblouissant. Ça se sait dans l'heure qui suit. Et là, les deux types en question, ils ont vraiment fait la révolution. Tout le monde a voulu en faire autant, comme tu disais. Et les plus grands tubas ont abandonné le tuba pour la contrebasse et sont devenus les plus grands contrebassistes, ce qui prouve quand même qu'ils avaient de la ressource. Le premier que nous pouvons évoquer là s'appelle John Kirby. John Kirby était un des plus célèbres tubas de son temps. Et voilà ce que ça donne à la contrebasse. Et je peux dire que dans le morceau qui va suivre, tout est posé sur la contrebasse. Vous n'avez qu'à écouter. L'arrangement est de John Nesbitt et ça s'appelle tout simplement Chinatown. Ça se passait chez Fletcher Anderson où John Kirby à la contrebasse avait remplacé June Cole au tuba. Et on va retourner d'ailleurs chez Fletcher un peu plus loin, mais en attendant, voici de nouveau Duke Ellington où la contrebasse de Billy Taylor, ci-devant illustre tubiste, vient de remplacer Wellman Broad. La partie de basse, c'est pour beaucoup dans ce morceau, parce que, toujours pareil, hein, Ellington, très 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 pointilleux sur la contrebasse et son rôle dans les arrangements. Et Billy Taylor participe à une suite de deux morceaux qui sont faits pour aller l'un après l'autre. En fait, c'était les deux phases à 78 tours, mais là, on va passer ça en continuité. Et ça s'appelle...
Diminuendo and crescendo in blue.
Autant vous dire que c'est un blues, mais un blues, papa.
Alors, blues. Diminuendo, c'est le terme musical... de la musique classique qui veut dire en diminuant, et puis crescendo, c'est en augmentant.
Exactement.
Donc, ce sont les termes techniques du solfège.
Tout à fait. Là, le morceau part très fort, arrive sur un solo de piano qui est totalement feutré, et puis repart dans l'autre sens. Et là-dedans, on trouve plusieurs citations de Grieg, de Peer Gynt, retransformé en petit riff.
Alors, Grieg, c'est encore un musicien classique, ce qui prouve à quel point Duke Ellington s'était intéressé au classique.
Thank you.
Puisqu'on retourne à Fletcher Anderson, alors qui a succédé à Kirby ?
Eh bien, un autre tubiste reconverti qui s'appelait Elmer James. Alors lui, c'est un puissant, hein. C'est un type qui a tout compris. Il est très coté Bob Foster. Il joue en puissance, il slappe volontiers. Et dans l'arrangement qui vient, qui s'appelle Shanghai Shuffle, qui est un des meilleurs arrangements de Fletcher Anderson lui-même, qui s'est peu servi de ce talent-là pour publier sous son propre nom d'ailleurs. Il a beaucoup travaillé pour d'autres, comme Benny Goodman. Mais les arrangements de Fletcher Anderson pour son propre orchestre sont assez rares. Celui-là est un très très bel arrangement. Je m'empresse de le dire, d'attirer l'attention de tous les mélomanes ou techniciens sur la qualité de cet arrangement et sur le rôle qui joue le bassiste Elmer James. Shanghai Shuffle. Force d'à force, naturellement, la contrebasse commence à devenir aussi un instrument de solo. On dira tout de suite que le jazz n'a pas vocation de laisser des solos de contrebasse à tout bout de champ parce que ça demande un talent considérable qui est très peu partagé, je trouve. Mais il y a quand même des gens capables. Et là s'impose une des grandes figures de la contrebasse de jazz qui s'appelait Milt Hinton. Milt Hinton, lui, c'est pas difficile, il a appris à la fois le tube, à la contrebasse, au lycée. Donc il est totalement paré pour toutes les situations.
C'est le polyvalent de service.
Il swingait tellement, il a tellement attiré l'attention quand il a commencé à apparaître sur la scène du jazz que Cab Calloway a fini par le recruter et qu'il est devenu son bassiste attitré.
Cab Calloway, encore un grand orchestre.
Hein. Encore un big band. Et comme il était très intéressant en solo, Cab Calloway a tenu à lui faire enregistrer un morceau, une sorte de concerto pour contrebasse, qui s'appelle...
Plucking the Bass.
Plucking the Bass, exactement. Voici donc Milt Hinton, un homme charmant, très bon professeur, dans ses œuvres. Thank you. Et puisque la contrebasse est devenue un instrument de soliste, voici Slam Stewart qui, lui, a développé une technique tout à fait spéciale.
Alors, Slam Stewart, il a une particularité. Il chante en même temps que son archet joue en bas, lui, il chante en haut.
Exactement.
À l'octave.
À l'octave. On a appelé ça la basse chantante, naturellement, c'est très original.
Évidemment.
Et on a vu Slam Stewart se produire avec Slim Gaillard, avec pas mal d'autres gens. Slam Stewart, en fait, c'est une vocation tardive de la contrebasse. Car il a longtemps été violoniste. Il est venu à la contrebasse assez tard. Mais alors, quelle efficacité. Et son origine de violoniste, je pense, lui a donné cette idée de rester mélodiste. On le voit avec Fats Waller. C'est un des derniers disques de Fats qui est mort peu après. Et là, il illustre bien cette technique. Et ça s'appelle...
Moppin' and Bopping.
You want some more of that, man? Well, yeah, Zooty, take over. Pour it on them.
Thank you.
Jusqu'ici, nous avons dit beaucoup de choses sur beaucoup de bassistes, mais il faut maintenant insister sur le côté rythmique de la basse, c'est-à-dire sur le côté membre de la section rythmique du bassiste. La rythmique se compose traditionnellement, dans la plupart des cas, d'un bassiste, donc, d'un guitariste et d'un batteur. Et en fait, c'est quand ces trois-là sont en phase, totalement en phase, que la puissance s'installe, que toute une synergie se met en place et que l'orchestre commence à valoir plus que la somme des gens qui le composent.
Ça, c'est de l'arithmétique complexe.
Oui, mais pas tellement. C'est exactement comme au rugby. Tu peux prendre un pack d'avant de huit types qui individuellement sont d'un petit niveau. Si ce pack fonctionne bien entre eux, ils peuvent jouer tout à fait au-dessus du niveau de chacun quand ils sont ensemble. C'est pareil en musique. Et ça part de la rythmique. On a eu un bel exemple tout à l'heure avec le disque de Fletcher Anderson où jouait Elmer James, tu sais, Shanghai Shuffle, où là on sent bien que Lawrence Lucy, le guitariste, Walter Johnson, très grand batteur, et Elmer James, le bassiste, étaient totalement en phase et ça faisait vraiment décoller l'orchestre. Et là on va se retrouver devant le même cas. C'est la fameuse section rythmique de l'orchestre de Count Basie qui a commencé sa carrière à Kansas City. Freddie Green était à la guitare, il n'a jamais quitté Basie. Joe Jones était à la batterie. Il y restait très longtemps également. Et Walter Page était le bassiste. Et c'est une section rythmique, avec Basie au piano, qui est restée absolument légendaire, peut-être la meilleure de toutes les heures du jazz, disent certains.
C'est une sacrée rythmique.
Exactement, comme tu vois, ils sont tous en phase et c'est ce qui fait la grandeur de cette rythmique de Count Basie. Et maintenant, voici le génie. Le génie arrive. C'est-à-dire que la contrebasse a connu une grande mutation avec la prédominance progressive de la basse à cordes. La basse à cordes a commencé à trouver son style et puis arrive le type qui va tout changer et sans qui la contrebasse ne serait que ce qu'elle est. Et ce génie, s'il est tout jeune, il s'appelle Jimmy Blanton.
Et pourtant, ce Jimmy Blanton va avoir une vie très courte.
Très courte. Il est mort à 23 ans.
À 23 ans. Et il a absolument marqué le jazz.
Ah oui, profondément.
Il est né dans le Tennessee et sa mère était pianiste. Elle lui fait apprendre le violon. C'est le classique parcours du jeune noir cultivé musicalement.
Voilà, il commence au violon, puis le violon grandit tout seul.
Et puis, il joue naturellement dans les orchestres de son collège. Et très rapidement, eh bien, il va être dans les orchestres d'adultes. Et il va rentrer en particulier dans l'orchestre de Fat Marabel. C'est sur les Riverboats.
Tu sais que cet orchestre de Fat Marabel, il a duré, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais en 1922, il a quand même vu passer Lou Armstrong qui montait sur Chicago. Un tas de types ont commencé chez Fat Marabel et c'est là d'ailleurs qu'Armstrong a appris le solfège à 22 ans.
Et les Riverboats, vous savez, c'est ces bateaux qui sont avec des roues à aubes et qui descendent le Mississippi.
Et quelquefois le remontent d'ailleurs.
Et quelquefois le remontent.
Parce qu'une fois, il le descend, une fois... Bon, pardon.
Et ça marche si bien chez Fat Marabel que du coup, il abandonne ses études.
Il devient pro. Et là, il a un coup de chance parce qu'il joue dans un hôtel, je crois me rappeler ce détail, où Duke Ellington, de passage, l'entend.
Et Duke va immédiatement l'engager.
Il le prend immédiatement. On l'a déjà dit plusieurs fois, pour Ellington, là-bas, c'est quelque chose de très important. Il n'hésite pas une seconde. Et à l'époque, Blanton doit avoir 20 ans. Il le fait jouer avec un autre bassiste. Billy Taylor est toujours dans l'orchestre. Blanton, au départ, il est tellement doué, il est tellement capable qu'il ne sait pas très bien comment faire avec lui. C'est trop à la fois. Il regarde son bassiste, Billy Taylor, et il fait jouer Blanton en plus ou à côté. Et c'est le seul bassiste, à ma connaissance, avec qui Duke Ellington est tenu à enregistrer en duo. Tellement Blanton était capable.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a repoussé les limites de la contrebasse de manière absolument incroyable. Il se balade d'un bout à l'autre du registre, il participe à l'arrangement. C'est le tatoum de la contrebasse.
Ça méritait bien qu'on écoute deux morceaux.
Alors d'abord, un des duos avec Ellington qui s'appelle
Plucking Again.
Plucking, c'est un terme d'argot de musicien et ça désigne la manière que peut avoir un contrebassiste de jouer en laissant vibrer ses cordes sans les faire claquer contre le manche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de slap, mais la corde vibre. Et quand on entend Blanton, on se rend compte qu'il y a cette espèce de... La note se prolonge jusqu'à la suivante, ça va très vite. Et c'est vrai que tous les bassistes qui sont venus après Blanton ont adopté son style. Alors maintenant, le nouveau génie de la contrebasse qui révolutionnera une fois de plus les choses, il n'est pas encore parmi nous. Voilà. La postérité de Blanton est quelque chose d'absolument immense. Donc, on va commencer par un duo avec Ellington qui s'appelle Plucking Again, juste piano contrebasse.
Et continuer avec Chloé.
Chloé est un morceau très spécial de Duke Ellington. D'abord, c'est un très beau morceau. C'est ensuite le morceau qui a inspiré Boris Vian pour écrire L'écume des jours, puisqu'on croit que ce roman plus célèbre de Boris Vian, son canevas est celui de l'arrangement de Chloé. Et de toute façon, l'héroïne de L'écume des jours s'appelle Chloé. En attendant, gloire à Blanton.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.